Bonjour, Madame Atika Al-Mamri, bonjour.
Bonjour, Souhila Hashmi.
Alors, nous sommes au lendemain de la Journée mondiale des droits de l'homme. On a choisi de parler ce matin des franges souvent marginalisées qui représentent en moyenne 15% de la population, c'est les handicapés. En Algérie, ils sont selon l'ONS 1,5 million de personnes. Selon vos chiffres, ils avoisineraient les 3 millions d'Algériens. On parle d'intégration socio-économique de personnes en situation d'handicap. Avons-nous fait suffisamment ou pas du tout en direction de ces personnes? Madame Amri.
Vous savez, les personnes handicapées continuent à vivre d'énormes difficultés, malgré une législation quand même assez riche qui, dans les lois, leur permet de travailler, d'avoir accès à l'école. Mais dans les faits, en l'absence de mécanismes qui leur permettent réellement de bénéficier de ces lois, les personnes handicapées continuent à être marginalisées. Quand je dis marginalisé, je vous donne un exemple. Quand un enfant, par absence de structure scolaire qui lui permet d'avoir accès, comme tous les enfants de son âge, à l'éducation, quand il est à la maison, qu'il ne peut pas sortir, qu'il ne fréquente pas les autres enfants, c'est une situation d'atteinte aux droits de l'homme, j'allais dire scandaleuse.
Alors, vous parlez d'une législation assez riche qui permet cette intégration socio-économique. Où réside donc le problème dans l'application de cette législation, Madame El-Mamri, puisque vous connaissez parfaitement ce dossier?
Oui, puisque je le vis depuis de longues années. Vous savez, ce que nous, à la Fédération, on a analysé, c'est qu'il y a une absence d'une loi d'orientation qui permet de définir ce que l'Algérie veut pour les personnes handicapées. Cette loi d'orientation n'existe pas. Il y a une loi qui donne une définition des personnes handicapées. Cette loi, d'ailleurs, doit se mettre en conformité avec la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, parce que actuellement, au niveau mondial, l'approche a changé. C'est une approche droit de l'homme. C'est-à-dire que les personnes handicapées doivent jouir de leur citoyenneté à part entière. Quand on dit citoyenneté, c'est d'avoir accès à tous les services dont bénéficient les autres citoyens. Ce ne sont pas des droits supplémentaires. Non, c'est comment faire en sorte, à travers justement l'accessibilité de l'environnement, l'accessibilité des postes de travail, l'accessibilité de l'école, la formation des professionnels de l'éducation, la formation d'agents d'insertion. Vous savez, tous ces personnels n'existent pas. Moi, à chaque fois, je me dis, il y a vraiment un retard. Je reviens de Tunis, où j'ai rencontré quand même des associations de Palestine, Jordanie, Égypte, Maroc. Elles se sont bien appropriées de cette vision droit de l'homme, puisqu'elles ne parlent pas de population à besoins spécifiques, parce que tout ce qui est spécifique, selon la Convention, exclut. Nous sommes des personnes en situation de handicap qui avons besoin d'aménagements spécifiques pour avoir accès aux droits pluriels dont bénéficient les autres citoyens.
Mais justement, par rapport à cette vision, la vision mondiale de l'handicap a changé de la charité aujourd'hui. Totalement. On n'est plus dans la même vision.
Tout à fait. De la vision caritative, on est passé à une vision droit de l'homme. Vous savez que l'absence d'aménagement, si vous passez par une porte et que nous, les personnes handicapées, à la télévision, je vous donne un exemple, vous avez prévu que la porte se trouverait derrière. Ça, c'est l'absence d'aménagement et le fait qu'il doit y avoir une vision inclusive. Je dois passer par la même porte que vous, seulement il faut qu'elle soit plus large. Voilà la vision qui fait que cette vision inclusive, c'est que nous devons fréquenter tous les espaces que fréquentent tous les citoyens et non pas que vous nous mettiez dans des espaces qui nous sont réservés.
Voilà. Et pour être concrète ce matin, que faut-il faire puisque tous les hommes avec un grand âge du point de vue droit sont égaux aujourd'hui?
Mais bien sûr, Je vais vous dire, il existe un conseil national consultatif pour les personnes handicapées qui se trouve au niveau du ministère de la solidarité, de la famille et de la condition féminine. En Algérie, vous savez qu'il existe beaucoup de conseils, mais il est constitué de beaucoup d'associations, de différentes, les trisomiques, les sourds, les autistes, et il est constitué aussi de tous les ministères, santé, éducation, planification, enfin, tout, vraiment tous les ministères. Ce qui nous empêche de faire des propositions, ces conseils, moi je trouve qu'ils ne sont pas assez autonomes. Le fait qu'ils soient sous tutelle d'un ministère les neutralise dans un processus de proposition. Et donc, on n'est pas libre. Et c'est trop bureaucratique, voilà. Ce qu'il faudrait, c'est peut-être une autre entité qui serait constituée aussi d'ONG représentant les personnes handicapées, avec les ministères dans un esprit de concertation où les ONG seraient une force de proposition qui alimenterait les politiques élaborées par justement les services concernés, par les pouvoirs publics.
Donc un conseil national consultatif autonome.
Autonome.
Indépendant d'un ministère.
Indépendant d'un ministère. Parce que ça nous lie les mains. On est obligé de faire politiquement correct, alors qu'on aurait souhaité dire réellement des réalités. Et ce conseil pourrait influencer les politiques dans le sens où les propositions et les programmes qui seraient destinés aux personnes handicapées conviendraient vraiment aux concernés et leur rendraient la vie plus facile.
Mais est-ce que ce conseil consultatif devrait voir ses prérogatives élargies pour être un donneur d'ordre aux autres segments ou secteurs d'activité névralgique pour permettre l'accessibilité, que ce soit pour l'école, pour l'enseignement, que ce soit pour l'habitation, pour accéder au logement, que ce soit aussi au niveau, par exemple, des formations ou d'une activité économique?
Vous savez, le problème, c'est que nous sommes sur le terrain en tant que fédération ou d'autres associations. Quand même, nous sommes au stade de force de proposition, puisque nous mettons en place des projets pilotes qui pourraient être des références en matière d'insertion non seulement scolaire, point de vue insertion professionnelle, accessibilité. Nous participons quand même à des forums mondiaux où nous nous frottons avec d'autres entités comme nous qui défendent et promeuvent le droit des personnes handicapées. Donc, je voudrais qu'on nous prenne réellement au sérieux et qu'on travaille ensemble pour... Et vous savez, c'est des solutions en plus faciles, mais les pouvoirs publics restent dans leur pratique, que c'est eux qui savent, et c'est difficile de s'imposer comme... Je vais enlever le mot s'imposer, mais de proposer d'être leur allié pour améliorer quand même la situation des personnes handicapées.
Mais Madame Atira Al-Mamri, quand vous parlez d'accessibilité, qu'est-ce que vous entendez? Accès à l'enseignement? Accès à la santé? Accès au logement? Accès à l'emploi?
Alors, quand on parle d'accessibilité d'une manière globale, c'est bénéficier et jouir d'un droit dont bénéficient les autres citoyens. Écoutez, je veux aller retirer un document au niveau de la mairie. Il faut que je puisse le faire. Il faut que je puisse non seulement arriver à la mairie, pénétrer dans la mairie et arriver au service qui délivre ce document. Donc réaliser la démarche que le matin j'avais prévue. Et non pas envoyer quelqu'un. Vous savez, je vais vous dire, moi j'envoie quelqu'un me retirer de l'argent, ce qui n'est pas normal. On a quand même droit à de la confidentialité. Or, je donne ma carte, ils connaissent le numéro de ma carte.
Vous déplorez l'absence d'aménagement spécifique pour des personnes handicapées, pour accéder justement à ces structures, mairie, poste, banque,
tout.
École.
Et vous savez que les non-voyants ont un gros problème, c'est que leur signature n'est pas acceptée. parce qu'ils ne voient pas, et bon, sous couvert qu'ils veulent les protéger parce qu'on peut les escroquer, eh bien, il faut toujours qu'ils aillent à la banque avec une personne qui a à leur place... c'est inconcevable. Et pour qu'on s'entende tous en cette journée mondiale des droits de l'homme, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a maintenant un texte de référence qui est la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Arrêtons de dire, vous savez, non, en arabe, c'est donc les personnes avec un handicap. Il faut absolument enlever les besoins spécifiques parce que ça marginalise.
Madame Atira El Mabri, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous, on revient dans deux petites minutes pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction. A tout de suite. Alors, Madame Atira El Mabri, beaucoup de questions pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Je voudrais revenir un peu sur les actions engagées en Algérie. Est-ce que vous pensez que nous faisons suffisamment? Ou alors il va falloir revoir et réviser la politique en direction des personnes en situation de handicap.
Vous savez, il faut réviser la politique en direction des personnes handicapées. L'opinion publique a l'impression que l'Algérie fait beaucoup de choses. C'est vrai par rapport à nos voisins, que ce soit les Tunisiens ou les Marocains. Nous, on a quand même une assurance, même si la personne handicapée ne travaille pas, elle a droit à une assurance sociale. Il y a l'Office national d'appareillage et d'accessoires pour personnes handicapées, justement, qui permet, grâce à cette assurance, qu'il ait sa prothèse s'il est amputé, qu'il ait son fauteuil roulant. Mais si on en revient, c'est déjà que tous ces dispositifs qui sont là pour faciliter l'insertion des personnes handicapées, il faut les revoir pour les enrichir et les améliorer.
Alors vous parlez d'une assurance sociale, mais l'allocation destinée à des personnes en situation de handicap, on parle de son augmentation, elle atteindrait les 4000 dinars. Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui? Est-ce qu'elle le sera prochainement également, Madame El Mabri?
Vous savez, il faut maintenant se dire ce que je donne. Je parle de l'État algérien. 4000 dinars, je le donne pourquoi? Est-ce que c'est juste comme ça, une allocation forfaitaire, ou bien elle est calculée selon les besoins des personnes handicapées? Or, elle n'est pas calculée selon les besoins des personnes handicapées. Je sais qu'elle va, d'après les journaux, je crois que Madame la ministre de la Solidarité nationale a annoncé qu'elle allait être doublée en 2015, donc elle fera 8000 dinars. Mais ce que je me pose comme question, on annonce que la pension allait être augmentée en 2015 de 8000 dinars. Or, cette augmentation ne figure pas dans la loi des finances 2015. Deuxièmement, vous savez, il faut quand même mettre un plafond de ressources. C'est-à-dire que si cette personne reçoit d'autres aides, comme une pension de reversion, si les parents décèdent et lui laissent une pension de reversion, s'il y a d'autres aides, par exemple, d'une caisse, d'une mutuelle, il faudrait dire, voilà, cette personne ne doit pas dépasser, si elle fait le cumul de toutes ses aides, elle ne doit pas peut-être dépasser 20 000 dinars. Mais qu'on ne dise pas à la personne, vous recevez 5 000 dinars d'une pension de reversion, vous n'avez pas droit aux 4 000, et demain, si c'est augmenté, celle à qui on a interdit de recevoir. Vous savez, ce n'est pas bien étudié. Il faut qu'on se mette autour d'une table et qu'on étudie réellement la situation des personnes handicapées et donner un objectif à cette pension et non pas juste pour avoir bonne conscience.
Alors, autre question, c'est les écoles spécifiques. Est-ce qu'il faudrait aussi augmenter le nombre d'écoles spécifiques en direction des handicapés? Alors, c'est une idée que vous considérez comme étant un peu discriminatoire à l'égard des personnes en situation d'handicap. Je parle des trisomiques, dont la prise en charge est extrêmement difficile. Je parle des non-voyants. Je parle aussi des personnes en situation peut-être de sourdité ou d'handicap.
Vous savez, il ne faut surtout pas dire, selon la Convention aussi et selon la situation des personnes handicapées, cette situation est plus difficile. Vous savez que les enfants infirmes moteurs d'origine cérébrale, eh ben, parce qu'on dit leur prise en charge est complexe, et donc ils grandissent, ils auraient pu marcher, Pour certains, ils auraient pu parler. Ils grandissent tout déformés alors qu'ils auraient pu s'insérer. Les situations, je reviens à ce que vous me disiez, est-ce qu'il faut encore construire ces centres? Non. Il faut faire en sorte...
À les intégrer avec les enfants normaux.
Quand... Mais attendez, pas comme ça. Hein, pour certains, parce qu'il y a plusieurs formes d'insertion. Il y a ceux qui doivent passer d'abord par un établissement spécialisé et après rejoindre, quand ils renforcent leur capacité, qu'on leur trouve le moyen d'écrire, de parler, on les intègre dans une école ordinaire. Il y en a d'autres, comme les enfants autistes, ce qu'on appelle des places d'immersion, c'est-à-dire qu'ils sont dans le centre spécialisé pour enfants autistes, et de temps en temps, ils font une immersion dans une école ordinaire avec d'autres enfants. Ça, c'est une question de professionnel. Il ne suffit pas de construire. Maintenant, il faut élaborer un projet d'établissement et un projet de soins de l'enfant. Il faut que chaque établissement, qu'il ait son projet d'établissement, qu'on sache quel est le programme pédagogique, quelle est la population qu'il va accueillir, pour quel but, et non pas de mettre... Vous savez, en ce moment, qu'est-ce qui se passe pour les inadaptés mentaux? C'est tous les types, c'est les autistes, les inadaptés profonds dans un même établissement.
Donc il faut, pour vous, supprimer les écoles spécifiques et aller vers une scolarisation ordinaire au niveau des établissements. Mais souvent, par rapport à cette scolarisation, quand on arrive et que le chef d'établissement découvre un enfant en situation de handicap et refuse de l'inscrire, vous êtes contre cela? Il faut dénoncer ce type de comportement?
Absolument.
Et d'attitude?
D'attitude, parce que non seulement il faut le sensibiliser, il faut aussi que la tutelle, vous savez, l'éducation ne doit pas être une dimension de la charité sociale. Quand on voit que les établissements spécialisés sont sous tutelle d'un ministère de la Solidarité nationale, ça doit être un droit, et ces établissements doivent être sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale et non pas sous tutelle du ministère de la Solidarité.
Alors pour la scolarité, qu'est-ce qu'il faut exactement pour être concret?
Vous savez, pour être
votre
concret,
proposition, madame,
notre proposition, Mme, c'est que nous, on a mis en place un service d'accompagnement à la scolarisation des enfants handicapés. C'est-à-dire que n'importe quel enfant chez qui on a repéré une déficience, il vient, il se présente. On évalue son environnement familial, son environnement social. On évalue ses capacités et on élabore son projet de scolarisation.
Mais est-ce qu'il faut augmenter le nombre de formateurs aussi pour ces enfants à besoins spécifiques, même si vous n'aimez pas cette expression, Madame Elmamri, j'ai compris.
En
situation d'handicap.
En tout cas, la grande carence, c'est le manque de professionnels dans le domaine du handicap. Que ce soit des ergothérapeutes, des agents d'insertion, des auxiliaires de vie scolaire, des auxiliaires de vie à domicile. Tous ces professionnels, il faut enfin qu'on démarre cette formation, et moi je suis pour qu'on fasse un audit de tous les professionnels qui travaillent maintenant au sein de la Solidarité nationale, et qu'ils enrichissent leurs compétences et qu'ils se mettent aux normes selon la convention internationale.
Pour la formation professionnelle aussi, de prendre en charge cette préoccupation, de former plus de jeunes capables de prendre en charge des personnes en situation d'handicap qui peuvent dispatcher au niveau des établissements. Ça aussi, c'est important.
On a signé une convention avec le ministère de la formation professionnelle, et nous sommes sur un métier qui est le conseiller d'insertion. C'est-à-dire que c'est lui qui fait le diagnostic de la situation de la personne et qui élabore aussi son projet d'insertion professionnelle.
Justement, il y a aussi autre difficulté, c'est celle de l'intégration socio-professionnelle. Beaucoup d'entreprises refusent d'employer des personnes en situation d'handicap alors que la loi le prévoit. Il est fixé le taux d'intégration à 1%. On devrait l'augmenter?
Écoutez, je vais vous étonner. Nous, on a fait un peu le tour de toutes les entreprises privées. Ils sont d'accord pour insérer des personnes handicapées.
Alors,
ils nous disent, accompagnez-nous. Dites-nous vers qui se diriger, vers quelle entité se diriger qui serait, elle, compétentes pour nous dire quels aménagements de poste il faut pour cette personne. Nous, on est prêts à les insérer. Mais les patrons sont laissés comme ça, tout seuls. Et il faut des professionnels qui leur disent, voilà comment aménager le poste de travail.
C'est la raison pour laquelle dimanche prochain, vous allez dévoiler les résultats d'une enquête que vous avez menée avec des chercheurs nationaux et étrangers sur l'intégration des handicapés dans la vie sociale.
Alors, c'est... Parce que le mot maintenant, c'est l'inclusion sociale des personnes handicapées dans la wilaya d'Alger. Donc cette étude a concerné 400 personnes. Ça donne vraiment des résultats probants. Et il y a des propositions. Donc rapidement, je vous lis les propositions qui ont été faites par ces chercheurs. Alors, mettre en œuvre une stratégie nationale pour le handicap conforme aux principes de la Convention qui doit inclure les éléments suivants. Mécanisme plus efficace de suivi de la législation existante. Logique transversale d'intégration des questions relatives au handicap dans les organismes publics, c'est-à-dire dans tous les ministères, il doit y avoir une question de la question du handicap doit être prise en compte. Renforcer les mécanismes de soutien économique, pensions, conditions d'accès effectif au marché du travail, action de sensibilisation au niveau de la société et adoption d'un plan national pour l'accessibilité.
Alors justement, cela sous-entend quelque part qu'on doit évaluer les politiques mises en place de façon régulière, tous les 2 ans, tous les 3 ans au minimum.
Tout à fait. Toutes les politiques publiques doivent prendre en compte d'une manière transversale les personnes en situation de handicap, non seulement au niveau de soins spécialisés, de la scolarisation, etc. Et pour terminer, je sais qu'on est pressé, il faut absolument que la société civile soit formée pour élaborer des rapports alternatifs.
Mais est-ce que vous avez quelques indicateurs chiffrés, par exemple, sur les situations irrégulières ou régulières actuellement,
vous savez,
par rapport à l'étude que vous avez engagée,
vous savez,
l'échantillonnage.
Dans l'échantillonnage, alors, problème d'accessibilité aux bâtiments, transport et voies publiques, ainsi que manque d'informations sur les activités aménagées. Il y a aussi attitude négative envers les personnes handicapées. C'est vrai parce que cette étude, elle est innovante dans la mesure où elle travaille sur les interviews des personnes et beaucoup se disent mal considérés, méprisés. Moi, ça m'a choqué dans cette enquête. Ils se sont pas plaints de la pension, mais de l'attitude négative de la société. Et il y a 3 jeunes qui ont cherché du travail. Ils ont été acceptés, mais au moment de l'embauche, il a pris les 2 et le troisième qui est handicapé, il a été refusé. Donc voilà, c'est tout ça qui crée des situations de discrimination.
Mais vous avez des indicateurs chiffrés, par exemple?
74% des interviewés disposaient d'un niveau de revenu mensuel égal ou inférieur à 4000 dinars par mois. 85% ont une carte de handicapé et l'utilisent surtout pour des raisons économiques ou pour bénéficier de priorités. Ils vous disent aussi... voilà, difficultés liées à l'absence d'aménagement, faible niveau éducationnel, 21% sans aucune éducation, 55% enseignement primaire, 12% formation secondaire et 12% études universitaires. Et diminution progressive du pourcentage de personnes dans les échelons plus bas de revenus en fonction du niveau éducationnel.
Donc il faut travailler sur la base des chiffres que vous communiquez aujourd'hui.
Ah, absolument.
Et autre question, vous avez signé avec l'ANGEM. Est-ce que c'est suffisant? Il faudrait peut-être aller vers d'autres secteurs pour booster encore davantage l'insertion des personnes en situation d'handicap à travers tout le territoire national, que ce soit au nord, dans les hauts plateaux ou au sud, sans discrimination.
Vous savez, ce sont ces espaces de concertation à un niveau déjà de la mairie. Nous, on a un projet où on va mettre en place des conseils locaux de concertation qui se réuniront autour d'un thème. Par exemple, l'éducation dans telle commune, les écoles, tous les acteurs chargés de l'éducation.
Donc commence au niveau de la mairie.
Tout commence au niveau de la mairie. C'est là où les choses pourront changer.
Madame Atiqa Al-Mabri, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bon courage pour le travail que vous faites.
Merci, Soïla.
Merci et bon week-end. À bientôt.